Premier livre des rois, chapitre 7, versets 1 à 12, les maisons de Salomon. Et Salomon mit 13 ans à bâtir sa propre maison, et il acheva toute sa maison. Verset 1. Il avait fallu 7 ans à Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. On voit par là l'empressement qu'il mit à cet ouvrage. Hérode mit 46 ans à bâtir son temple. Jean 2, verset 20. Le service de l'Éternel primait tout autre chose dans le cœur du roi au commencement de sa carrière. Sa propre maison, certes moins importante que le temple, lui coûta 13 années de travail. Le passage qui nous occupe nous parle de 3 maisons différentes. La première est celle qui est appelée la propre maison de Salomon, sa maison où il habitait, son domicile particulier. Il nous en est peu dit, sauf qu'au lieu du portique du trône, qui caractérisait la maison de la forêt du Liban, verset 7, la maison du roi avait, au-dedans du portique d'accès, voir le verset 6, une autre cour, dont l'ouvrage était du même genre, verset 8. Ce n'était pas dans cette maison que Salomon jugeait. Il y habitait. Elle nous est présentée d'une manière quelque peu mystérieuse. C'est une maison d'intimité. Mais elle est mentionnée immédiatement après le temple et en fait comme le pendant. Dieu habitait dans le temple et y avait plusieurs demeures pour les siens. Le temple était une image de la maison du Père. La maison que nous trouvons ici était la maison du Fils. 1 Chronique 17, verset 13. Si nous en cherchons l'analogue dans le Nouveau Testament, nos pensées se portent immédiatement vers cette église dont il a dit « Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée ». L'Église, comme nous le savons, n'était pas révélée dans l'Ancien Testament. C'était un mystère qui ne pouvait être connu qu'après la résurrection du Seigneur. Cependant, rien dans l'Ancien Testament ne contredit cette révélation future. Bien au contraire, il semble parfois que sa place y soit marquée d'avance pour l'introduire elle-même au moment voulu. Certains types dépassent les relations juives et en font pressentir de plus intimes. Rappelons seulement la relation d'Adam et d'Ève, de Rebecca et d'Isaac, d'Abigaïl et de David. Rappelons surtout l'assemblée du psaume 22, mentionnée en Hébreux 2, verset 12. « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je chanterai tes louanges. » Arrêtons-nous enfin à cette maison de Salomon, dont le Nouveau Testament nous présente les glorieuses assises. Le règne millénaire de Christ ne sera pas seulement caractérisé par ses relations avec son peuple et avec les nations, mais par l'intimité glorieuse de l'Église avec lui. Elle sera l'épouse, la femme de l'agneau, mais, nous le répétons, notre passage ne va nullement jusque-là, et traite ces choses d'une manière à dessein obscure et mystérieuse. Il n'en est pas ainsi de la maison de la forêt du Liban, versets 2 à 7. Ce nom qui lui est donné rappelle d'un côté sa construction et peut-être aussi son apparence architecturale. Elle était bâtie en bois de cèdre. Elle présentait partout, extérieurement et intérieurement, des colonnes de cèdre qui, disposées en longues rangées, pouvaient lui en donner l'apparence d'une forêt imposante. D'autre part, on peut voir dans cette appellation une belle image de ce règne glorieux. Le Liban regardait Tyr et même lui appartenait. Il y avait donc un rapport entre cette maison et les nations soumises au grand roi. C'était là que Salomon siégeait comme souverain et juge des nations, aussi bien que de son peuple. La maison de la forêt du Liban avait 100 coudées de longueur, 40 de plus que le temple, 50 coudées de largeur et 30 de hauteur. Elle reposait sur 4 rangs de colonnes. Sur chacune des 2 faces latérales s'élevaient sur 3 rangs de colonnes disposées 15 par 15 des enfilades de chambres superposées, selon toute apparence, en 3 étages comme celle du temple. Note 1. L'expression « un jour » répondant à « un jour » 3 fois ne peut guère, nous semble-t-il, être comprise autrement. Ces chambres contenaient les boucliers d'or que Salomon avait fait confectionner pour sa garde, car la maison de la forêt servait en même temps d'arsenal. chapitre 10, versets 16 et 17, chapitre 14, versets 26 à 28, Ésaïe 22, verset 8. Leurs fenêtres se faisaient vis-à-vis, c'est-à-dire, nous avons lieu de le penser, que les unes regardaient au dehors, les autres au-dedans de l'édifice, ayant vue sur le portique. Par-dessus ces chambres se trouvait une couverture de cèdre formant toit et recouvrant aussi le centre de l'édifice qui soutenait cette couverture par quatre rangées de colonnes. Le centre lui-même était composé de deux portiques, d'abord le portique à colonnes, bien nommé ainsi par ses six rangées de colonnes latérales, et les quatre rangées de colonnes s'élevant au milieu du portique. Ensuite le portique du trône ou portique du jugement, faisant suite au premier et occupant le fond de l'édifice. Note 1. L'expression portique à colonnes ferait supposer que les chambres latérales ne s'étendaient pas au-delà de la moitié de la longueur de l'édifice et n'avaient pas vue sur le portique du trône. Au fond de ce portique s'élevait le trône merveilleux sur lequel nous aurons à revenir plus tard. Devant le portique à colonnes se trouvait un portique d'entrée dont les dimensions ne nous sont point données. Il était aussi garni d'une colonnade et avait un entablement ou perron par lequel on accédait à la maison. On peut aisément se représenter la majesté de cette construction. L'œil plongeant dans la partie centrale à travers une forêt de colonnes de cèdre jusqu'au second portique, au fond duquel s'élevait le trône d'or et d'ivoire merveilleusement ouvragé, pouvait contempler sur ce trône le roi glorieux, Salomon le pacifique, le Jedidiah bien-aimé de l'Éternel, celui dont la sagesse ne fut jamais surpassée, le roi juste et rendant la justice. Ce portique du trône était le portique du jugement. Là était le siège du gouvernement des nations, le lieu où la justice était rendue. La maison de la forêt du Liban reliait le gouvernement d'Israël proprement dit avec celui des nations. Cette maison où l'on rencontrait partout des colonnes faisait contraste avec le temple qui n'en avait point, sinon Jacquin et Boaz à l'entrée de la maison, comme nous le verrons plus tard. Du moins, aucune colonne n'est mentionnée, ni dans le lieu saint, ni dans l'oracle. La maison de Dieu se soutient par elle-même et n'a besoin d'aucun appui dans sa parfaite stabilité. La gloire de Dieu se suffit à elle-même, sauf que Dieu, le Père, y associe ses enfants et leur y donne une demeure. Il n'en sera pas ainsi du règne de Christ sur les nations. Les saints seront appelés à le partager, à juger le monde avec Christ. 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Psaume 2, verset 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier tu les mettras en pièces. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie. Le Seigneur aura des compagnons de son gouvernement qui demeureront toujours près du roi, comme jadis les compagnons de Salomon dans la maison de la forêt du Liban, tandis que l'Éternel avait des sacrificateurs demeurant avec lui dans son temple. La troisième maison est celle de l'épouse gentile, fille du Pharaon. Il en est à peine dit davantage que de la maison habitée par le roi. Nous savons seulement qu'elle était bâtie sur le plan du portique de la maison du Liban, probablement du portique à colonnes. Nous avons dit plus haut que l'union de Salomon avec la fille du Pharaon ne préfigurait pas les rapports du Seigneur avec l'Église, mais ceux des nations, autrefois oppresseurs du peuple de Dieu, avec le Messie. Cette union glorieuse, sans doute, n'offre pas la même intimité que celle du Messie avec Israël, et à bien plus forte raison de Jésus avec l'Église. Note 1. Cette relation est cependant beaucoup plus intime que celle avec les nations aux confins du royaume. Les nations forment diverses catégories. Sous le règne de Salomon, ce qui restait des Cananéens était employé à l'œuvre servile. Les nations comme Tyr coopéraient librement à cette œuvre. L'Égypte et la Syrie, autrefois oppresseurs d'Israël, se tourneront vers l'Éternel dans la période millénaire et le serviront ensemble. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées le bénira, disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains ». et Israël mon héritage. Isaïe 19, versets 24 et 25. Les versets 9 à 12 relient la gloire de ces maisons à celle du temple et de ses parvis intérieurs et extérieurs. Les mêmes pierres de prix étaient employées pour tous ces édifices. Leurs fondements étaient les mêmes. Aucun élément n'y entrait qui ne correspondît au caractère de l'Éternel et de Salomon. Ces trois maisons et le temple nous donnent un aperçu de ce qui caractérisera le règne glorieux du Fils de Dieu, du Fils de l'homme et du Fils de David. On y trouvera une sphère céleste, la maison du Père, où un peuple de sacrificateurs demeurera avec lui, une assemblée glorieuse, la maison du Fils, sa demeure intime et son épouse. On y trouvera une sphère terrestre, une épouse gentille participant aux bénédictions de l'Alliance, un gouvernement de toutes les nations soumises au sceptre du grand roi, sans parler d'Israël, si longtemps rejeté à cause de son infidélité, maintenant reçu en grâce selon la nouvelle alliance, comme l'épouse juive bien-aimée, centre du gouvernement terrestre du Messie. Versets 13 à 51. Hiram et le parvis. Salomon fit appeler de Tyr Hiram, afin de lui faire confectionner les objets d'airain destinés au parvis du temple. Hiram était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali, et son père était Tyrien, ouvrier en airain. Dans le désert, l'Éternel avait choisi pour l'œuvre du tabernacle Betsaléel de Juda et Oholiab de Dan, Exode 35, versets 30 à 35. Au fils d'Israël seul incombait alors l'ouvrage du tabernacle. Le peuple entièrement séparé des nations ne pouvait avoir avec elles aucune œuvre commune. Sous Salomon, la scène change. Les nations réconciliées s'emploient au service de Dieu avec son peuple. Loin de l'Éternel domine sur les unes et sur les autres. Hiram appartient aux deux par sa naissance. L'alliance d'Israël et des gentils forme sa parenté. Fait remarquable, s'adaptant parfaitement à la scène qui nous occupe. Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence et de connaissance pour faire tous les ouvrages en airain, verset 14. Il est le représentant de l'Esprit de Dieu pour cette œuvre, Ésaïe 11, verset 2, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Deux métaux, l'or et l'airain jouent un rôle prépondérant dans la construction du temple. L'or est toujours le symbole de la justice divine, qui nous admet en la présence de Dieu. C'est par elle que nous pouvons nous tenir devant lui. Nous la possédons en Christ dans le ciel. L'airain est le symbole de la justice de Dieu, déployant sur la terre ce qu'il est pour l'homme pécheur. Les ustensiles du temple étaient d'or, les ustensiles du parvis étaient d'airain et avaient trait à la terre. Hiram n'est occupé que de l'airain. Nous avons déjà fait remarquer que le premier livre des rois ne nous parle pas de l'autel d'airain, dont cependant Hiram est l'artisan. Voir 2 Chroniques 4, verset 1. Cet autel représente la justice de Dieu venant se manifester en faveur de l'homme pécheur, là où il se trouve, et de manière à lui permettre de s'approcher de Dieu en vertu du sacrifice offert sur l'autel. Le livre des rois ne développe pas ce point de vue. Il nous parle de demeurer avec Dieu dans son temple, et quand il mentionne l'airain, ce n'est pas comme une figure de la justice divine par laquelle nous approchons de Dieu, mais la manifestation aux yeux du monde de cette justice qui caractérise le royaume et le gouvernement de Salomon ou de Christ. C'est, en un mot, la justice de Dieu, mais manifestée au dehors en gouvernement. Les ustensiles du parvis, mentionnés dans notre chapitre, nous montrent ce qui est nécessaire pour que cette manifestation ne soit pas entravée. L'Esprit de Dieu représenté par Hiram s'emploie à cela. Nous trouvons donc, dans les chapitres qui nous occupent, Dieu nous ouvrant sa maison pour que nous y habitions avec lui, Christ nous fournissant la justice divine, l'or, nécessaire à ce but. Le Fils, comme roi de justice, manifestant la gloire de son royaume, et l'Esprit agissant pour que cette justice soit manifestée aux yeux de tous les hommes sur la terre, sans entrave. Considérons maintenant les objets que Hiram fondit pour Salomon dans la plaine du Jourdain. Ils appartiennent tous, nous le répétons, au parvis du temple, c'est-à-dire à la manifestation extérieure du gouvernement glorieux de Christ. Les colonnes, versets 15 à 22. Les colonnes d'airain placées devant le portique du temple attiraient tout d'abord le regard. Elles représentaient la manifestation extérieure des principes du royaume. Nous avons déjà dit que, dans le temple, aucune autre colonne n'est mentionnée. Elle se nommait Jacquin, il affermira, et Boaz, en lui est la force. C'étaient les deux grandes vérités présentées en symbole à quiconque faisait partie du règne béni de Salomon. Tout vient de lui, la force est en lui personnellement. Il se tient par lui-même et n'a besoin d'aucune aide extérieure, quelle qu'elle soit. Sa force est employée à affermir au lieu d'avoir besoin d'être affermi. La bénédiction millénaire est basée sur ces deux principes, notre bénédiction actuelle aussi. Le trône de Salomon, son gouvernement, les rapports de son peuple avec Dieu, son culte, tout était fondé en type sur ce que Dieu avait fait. Il avait établi son règne. Mais, sous Salomon lui-même, la colonne Jacquin, il établira, non pas il a établi, parlait d'un établissement futur dont le règne de Salomon n'était que la faible image. Quant à la colonne Boaz, en lui est la force, c'est une chose passée, présente, future et éternelle. La force est en lui. Salomon, comme tout roi pieux en Israël, devait comprendre cela. Du moment que le lien avec Dieu venait à se rompre, ni le roi ni le royaume n'avaient plus aucune force. Nous faisons aujourd'hui la même expérience. Philadelphie avait peu de force, mais sa force était en Christ, car il avait la clé de David, et le Seigneur lui dit « Je t'établirai dans le temple de mon Dieu et t'y ferai être une colonne. Tu seras un Jacquin et un Boaz. » Dans un temps futur, le pauvre résidu sans force sera reconnu publiquement. Christ, avec son incommensurable puissance, sera rendu admirable dans tous ceux qui auront cru. Nous n'avons pas à attendre une période future pour en faire l'expérience, car il est notre force aujourd'hui, comme il le sera toujours. Mais le temps viendra où les témoins de Christ seront établis et manifesteront d'une manière glorieuse tout ce qui leur appartiendra pendant l'éternité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Apocalypse 3, verset 12. Les colonnes se terminaient en fleurs de lys, image, nous le pensons, de la gloire de ce règne à son début. Matthieu 6, versets 28 et 29. Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Détail caractéristique, elles portaient des centaines de grenades à leur chapiteau. La grenade nous semble être, dans la parole, l'image du fruit porté pour Dieu. Le vêtement du souverain sacrificateur était garni sur son bord de clochettes et de grenades alternées. Exode 28, versets 31 à 35. Les clochettes représentent le témoignage, les grenades le fruit. Ces dernières étaient de bleu, de pourpre et d'écarlate. Le bleu, fruit céleste, la pourpre, fruit correspondant à la dignité du Seigneur, et l'écarlate, sa dignité royale comme Messie. Notre fruit doit porter le caractère de Christ et être digne de lui. Il faut d'autre part qu'il corresponde à notre témoignage et lui soit égal, comme les grenades égalaient en nombre les clochettes d'or. On trouve souvent chez les chrétiens plus de clochettes que de grenades, plus de paroles que de fruits. Le fruit et le témoignage ne peuvent être portés et rendus qu'en vertu de l'huile de l'onction, c'est-à-dire du Saint-Esprit qui coule de la tête d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Psaume 133, verset 2. Le bord du vêtement de notre souverain sacrificateur, c'est nous-mêmes, qui ne pouvons prétendre au titre de chrétien si nous ne rendons pas témoignage à Christ et ne portons pas du fruit pour Dieu dans la puissance de l'Esprit-Saint. Les grenades d'airain ornaient le sommet des colonnes. Comment le caractère divin peut-il être déclaré devant tous sans porter un fruit abondant de justice? Le Seigneur veut être couronné de fruits. Si la force est en lui, c'est pour produire du fruit. Il est le vrai cep ici-bas, et comme tel, il n'a pas d'autre fonction. Tout le soin qu'il prend des siens, toute sa discipline, ont pour but de les faire porter du fruit. Il faut qu'il se montre à tous les yeux comme celui qui le produit. L'Esprit de Dieu a dressé publiquement une colonne. Cette colonne est Christ. Il porte les siens sans force, si ce n'est en lui. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que Dieu établit, ce qui tire sa force de Christ, porte nécessairement du fruit en abondance. Notre passage s'applique proprement au fruit de justice manifesté sous le règne et le gouvernement du Seigneur. S'agit-il du règne de Salomon ? Les colonnes d'airain n'ont pu être conservées à cause de l'infidélité du roi et de ses successeurs. Elles ont été brisées par les Chaldéens. Jérémie 52, versets 17 à 23. Son royaume n'a pu être établi parce qu'il n'a pas cherché sa force en Dieu. Mais si les colonnes matérielles ont disparu, les colonnes morales demeurent. Le jour viendra où l'Éternel, en qui est la force, montrera aux yeux de tous qu'il a établi en justice un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Alors il sera dit : L'Éternel règne, il s'est revêtu de majesté. L'Éternel s'est revêtu, il s'est ceint de force. Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Ton trône est établi dès longtemps, tu es dès l'éternité. Psaume 93, versets 1 et 2. La mer d'airain, versets 23 à 26. Après les colonnes, le parvis du temple contenait la mer d'airain. Il nous est dit expressément, en 1 Chronique 18, verset 8, que Salomon fit la mer d'airain, les colonnes et les vases d'airain, avec l'airain pris par David, des villes d'Adarézer. L'airain, nous l'avons vu, représente ici la justice de Dieu venant rencontrer l'homme où il se trouve pour le délivrer et se manifester au dehors, tel qu'on la verra sous le règne glorieux de Christ. Cette justice se montre ici dans l'anéantissement de la puissance de l'ennemi que David avait vaincu. Nous savons que cela eut déjà lieu à la croix de Christ, mais sous son règne de justice, la puissance de Satan, liée pour 1000 ans, sera annulée afin qu'elle n'entrave plus la purification pratique des saints qui serviront le Seigneur. La mer d'airain diffère de l'autel d'airain. Ce dernier représente la justice divine venant rencontrer l'homme pécheur pour expier son péché par le sang de la victime et le purifier par la mort, en sorte qu'il puisse s'approcher de Dieu. C'est du côté percé de Christ que sont sortis le sang qui expie et l'eau qui purifie. Sous la loi, le lavage des sacrificateurs lors de leur consécration correspond à la purification par la mort. Ils étaient lavés tout entiers, et une fois pour toutes. Exode 29, verset 4 et Lévitique 8, verset 6. Cette cérémonie ne se faisait pas dans la cuve d'airain, ni dans la mer d'airain. Elle n'était jamais répétée. Elle figurait le lavage de la régénération, Tite 3, verset 5, la mort du vieil homme, et la purification qui place le croyant dans une position entièrement nouvelle, celle de Christ devant Dieu. Voir Jean 13, verset 10. Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. La mer d'airain servait à la purification journalière des sacrificateurs. Ils y lavaient leurs mains et leurs pieds. Ils étaient ainsi qualifiés pour accomplir leur service et demeurer où demeurait l'Éternel. Car il s'agit toujours dans ce livre de demeurer, non de s'approcher. De même, les disciples ne pouvaient avoir aucune part avec Christ dans la maison du Père s'ils ne lavaient pas leurs pieds. Jean 13, verset 8. Ce lavage s'opère par la parole de Dieu en vertu de l'intercession de Christ comme avocat. Sous la loi, ce lavage s'appliquait aux mains et aux pieds, c'est-à-dire aux œuvres et à la marche. Sous la grâce, il ne s'applique qu'à la marche. Car nous avons été purifiés des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, et cela a eu lieu une fois pour toutes, ce que la loi ne pouvait faire. La cuve d'airain du tabernacle diffère en quelque mesure de la mer d'airain du temple. Nous venons de voir que cette dernière était la manifestation de la justice divine, brisant la puissance de l'ennemi, pour rendre possible la purification journalière des sacrificateurs. Au désert, cette victoire n'était pas remportée. La cuve ne fut pas fondue avec l'airain pris à l'ennemi, mais avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Exode 38, verset 8. Ce passage fait allusion à ce qui suivit le péché du veau d'or. Moïse avait dressé une tente hors du camp et l'avait appelée la tente d'assignation. Tout le peuple devait, en signe d'humiliation, se dépouiller de ses ornements, et ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation hors du camp. Exode 33, versets 4 à 7. Les miroirs des femmes d'Israël repentantes servirent à confectionner la cuve d'airain. Elles venaient rencontrer leurs péchés et s'en humilier. Elles se dépouillaient de ce qui, jusqu'alors, avait servi à leur vanité. Comment se seraient-elles encore complues à considérer leur face naturelle? Elles ne voulaient, ne pouvaient plus se voir. Elles se jugeaient réellement elles-mêmes, leur égoïsme, leur légèreté, tout ce qui avait contribué à leur faire abandonner Dieu pour une idole. Il fallait que ce qui les représentait dans leur état de péché fût anéanti. La cuve d'airain est donc la justice de Dieu prononçant le jugement sur le vieil homme, mais afin que le croyant puisse obtenir la purification pratique et journalière par la parole. Pour nous délivrer, cette justice s'est exercée sur Christ, c'est en lui que nous réalisons maintenant le « connais-toi toi-même », impossible à l'homme pécheur. L'obstacle que la chair et Satan opposaient à notre purification journalière étant ôté, l'eau de la mer d'airain nous apprend que, sans cette purification, nous ne pouvons avoir communion avec Dieu, dans notre service et notre marche, et que toute manifestation de la chair doit être supprimée dans la pratique. En Apocalypse 4, verset 6, nous retrouvons la mer comme dans le parvis de Salomon, mais une mer de verre, semblable à du cristal. C'est le résultat définitif de la justice qui a remporté la victoire sur Satan et l'a anéanti. Ceux qui se tiennent là devant Dieu s'y trouvent dans une condition permanente de sainteté et de pureté, ayant atteint leur caractère immuable et, pour ainsi dire, cristallisé pour toujours. On ne peut plus se laver dans la mer de cristal. On est ce qu'elle représente devant Dieu éternellement. En Apocalypse 15, verset 2, nous trouvons de nouveau une scène céleste. C'est une mer de verre mêlée de feu sur laquelle se tiennent les vainqueurs de la bête et de son image. Ce sont les fidèles d'entre les nations qui, après avoir traversé la tribulation et tenu ferme jusqu'au martyr, ont part à la première résurrection. Ils ne possèdent la pureté absolue et définitive qu'après avoir subi le baptême du feu. Revenons à la mer d'airain. Elle était posée sur 12 bœufs regardant, 3 par 3, les 4 coins de l'horizon. Le bœuf est l'un des 4 animaux qui forment les attributs du trône, Apocalypse 4, et représente les qualités actives de Dieu, les principes de son gouvernement. Le bœuf, comme nous l'avons déjà vu, est la fermeté et la patience de Dieu dans ses voies. Les 12 bœufs d'airain sont la manifestation complète et en tout sens de la patience de Dieu dans ses voies, par lesquelles il a réussi à amener Israël sous le sceptre du Messie, en le rendant capable de se tenir dans la sainteté devant lui. Cela ne signifie pas que dans le règne millénaire, dont celui de Salomon est le type, la purification d'un peuple de sacrificateurs ne soit plus nécessaire. Le péché n'aura pas encore été ôté du monde. Sans doute il sera restreint et ses manifestations empêchées, car Satan sera lié. Mais la chair ne sera pas changée. Elle ne peut l'être. Encore moins abolie. Elle le sera. Et l'eau de la mer d'airain, la parole entre les mains du Christ souverain sacrificateur, aura toujours sa vertu purifiante. Il est intéressant de constater que la mer n'est pas mentionnée dans le temple d'Ézéchiel, non qu'elle ne s'y trouve pas, mais son importance est comme reléguée à l'arrière-plan. Par contre, l'autel y domine, et quoique le sacrifice pour le péché y soit offert, le rôle principal y est donné à l'holocauste et au sacrifice de prospérité. Comme les colonnes, la mer fut brisée par les Chaldéens. Jérémie 52, verset 20. Les cuves et leur base. Versets 27 à 40. La mer d'airain servait à la purification des sacrificateurs. Les 10 cuves, 5 à droite, 5 à gauche du parvis, à laver ce qu'on préparait pour l'Holocauste. De Chroniques 4, verset 6. Nous voyons en Lévitique 1, verset 9, que le sacrificateur lavait avec de l'eau l'intérieur et les jambes de la victime. Il fallait que ce type correspondît à la réalité future, à l'offrande de Christ à Dieu dans une pureté parfaite. Celui qui s'est offert en odeur de bonne senteur était la sainteté même et n'avait nul besoin d'être lavé. Mais le type devait l'être, afin de pouvoir montrer la perfection de l'offrande de Christ. L'Holocauste représente le sacrifice de Christ s'offrant à Dieu, le glorifiant dans tout ce qu'il est, et cela à l'égard du péché. Selon la perfection de ce sacrifice, Dieu peut nous recevoir. La victime ne devant présenter à Dieu aucune souillure, il fallait démontrer qu'elle était parfaite, que cette pureté s'étendait non seulement à la conduite, mais à tout l'intérieur de l'offrande. Cette vérité était présentée par l'eau des cuves. La mère unique lavait les sacrificateurs. Tous avaient recours à ce seul moyen pour être purifiés des souillures de leur marche. Christ, fait péché, est la source de la purification des siens. Sa parole en est le moyen. Il fallait 10 cuves pour laver les victimes qui devaient représenter la pureté devant Dieu. Elles étaient, nous n'en doutons pas, le symbole de la pureté absolue de Christ. Les cuves n'appartenaient pas au tabernacle du désert, quoique ce dernier offrit sans doute des vases propres à laver l'Holocauste, Exode 27, verset 19 et 38, verset 30. Elles manifestaient dans le royaume la perfection de l'Holocauste, fondement de l'acceptation du peuple devant Dieu. Cette pureté, cette sainteté du sacrifice, satisfaisait à toutes les exigences du gouvernement de Dieu. Aussi voyons-nous les bases et les chapiteaux des bases, sur lesquels les cuves étaient posées, proclamer par leur ornement tous les attributs de ce gouvernement. Note 1. Sauf les aigles, nous avons déjà dit plus haut que la promptitude des jugements n'avait pas de rapport avec un règne de justice et de paix. Sur les bases mêmes étaient sculptés des lions, des bœufs et des chérubins, la force, la patience et l'intelligence divine. Note 2. Ces derniers portent simplement ici la figure humaine, comme sur les murailles du temple. En Ézéchiel 41, verset 19, ils ont 2 faces, celle d'un lion et celle d'un homme, la puissance et l'intelligence qui caractérisent seul le règne du Christ définitivement établi. En Ézéchiel 1, les 4 animaux ont chacun 4 faces, car il était question de caractériser le trône de Dieu en jugement. L'Holocauste est présenté pur selon ces choses. Il est manifesté qu'elles ont été employées à établir une offrande selon laquelle le peuple pouvait être agréé de Dieu, étant identifié avec la victime. On pouvait lire sur les bases ce qu'était le Dieu qui avait fourni à son peuple un moyen de demeurer avec lui. Ces cuves, continuellement poussées sur leurs roues, venaient se placer à la portée de la plateforme de l'autel, afin que les victimes fussent continuellement présentées comme pures. Le chapiteau, c'est-à-dire le couronnement de la base, ne portait plus que des chérubins, hommes, et des lions avec des palmiers, comme sur les murailles du temple d'Ézéchiel. Ézéchiel 41, versets 18 et 19. Note 1. Dans notre livre, les murailles portaient en outre des fleurs entr'ouvertes, peut-être parce que ce n'était pas encore le plein épanouissement du règne. Ces fleurs entr'ouvertes manquent en 2 Chroniques 3, versets 5 à 7. La force et l'intelligence couronnent le fondement des voies de Dieu en gouvernement. Si Salomon était fidèle, il n'était plus besoin de patience. Elle était arrivée à ses fins. La force et l'intelligence divine auraient pu alors, comme dans le temple millénaire, regarder du côté des palmiers, symbole de triomphe et de protection paisible, paix sur la terre. Le règne de paix était établi en justice. Les cuves de l'Holocauste le proclamaient, comme les murailles du temple. Dieu avait été glorifié par l'Holocauste. Tout ce qu'il était avait été manifesté par l'offrande sainte, et cela était déclaré publiquement. Sous le règne glorieux de Salomon, le peuple d'Israël avait partout ces choses devant les yeux, mais ce règne, confié à la responsabilité de l'homme, allait-il pouvoir se maintenir ? Il est à remarquer que les cuves, dont il est fait une simple mention en 2 Chroniques 4, verset 6, sont décrites ici dans le plus grand détail, parce qu'il s'agit de la manifestation extérieure de ce que Dieu est dans son gouvernement et dans son royaume. Cette manifestation de Dieu se montre en Christ qui règne à la vue du monde. Ici se termine l'œuvre d'Hiram. Elle était, en type, le développement dans ce monde, par la puissance du Saint-Esprit, de ce que Christ est et de ce qu'est Dieu lui-même dans son gouvernement. Les objets d'or, versets 48 à 51. Les objets d'or sont présentés ainsi qu'en 2 Chroniques 4, comme étant l'ouvrage non de Hiram, mais de Salomon. Salomon s'occupe de tous les objets par lesquels est montrée la justice divine dans son essence glorieuse. Christ seul peut la manifester. L'intercession, autel d'or, la présentation en Christ, table de proposition, la lumière de l'esprit, chandelier, les moindres ustensiles du sanctuaire correspondent à cette justice établie par lui. Les portes même du sanctuaire tournent sur des gonds d'or. Sans justice divine, comment entrer dans le lieu très saint et y demeurer? Nous avons vu dans ce chapitre la manifestation extérieure du royaume et comme y appartenant un temple glorieux qui correspond en figure à la partie céleste de ce même royaume et dans lequel les sacrificateurs habitent avec Dieu. Tout ce qui avait été préparé sous le règne de la grâce vient orner la maison de l'Éternel sous le règne de la gloire. Le plan du tout provenait de David et non de Salomon, encore moins de Hiram, comme le prétendent les rationalistes. 1 Chronique 28, versets 11 à 13. Le premier règne avait préparé la gloire du second. Un Christ souffrant et rejeté inaugure un Christ glorieux. Ce que David avait fait était moindre en apparence que l'œuvre de Salomon, les matériaux moindres que l'ouvrage définitif, mais en réalité, le travail de David servait de base indispensable à ce qui représente toute la bénédiction millénaire.